Nous avons vu la semaine dernière combien le rapport à la vérité était important dans la foi chrétienne. Étant donné que pour le Christ, la vérité est la révélation de son Père, Dieu, au travers de sa personne. Et que la parole écrite, on s'était souvenu de ça dimanche passé aussi, donc la Bible avait la même valeur d'autorité, c'est pour ça que dans les milieux protestants, on va jusqu'à parler d'immanence, autrement dit que la parole écrite est l'expression même de l'être de Dieu. Ça va ? Nous avons également vu la situation de l'homme de la rue concernant la vérité au travers du tableau saisissant que Paul en fait dans le chapitre 1 de sa lettre à l'église de Rome. En deux mots, l'homme de la rue étouffe la vérité révélée et n'interprète donc pas correctement la révélation naturelle que Dieu fait de lui-même au travers de la création. Pour le dire autrement, Paul dit, ben, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Quand vous ne reconnaissez pas la présence, l'existence de Dieu à travers sa création, c'est que vous obstruez et vous étouffez la vérité révélée à travers cette création. Voilà comment Calvin, Jean Calvin, le réformateur du XVIe siècle, vous avez tous lu, j'en suis sûr, comment il rendait cette réalité. Dans la nature de l'homme, quelque perverse et abâtardie qu'elle soit, ce sont des termes du XVIe, je suis désolé, il y a encore quelques flammes, donc de conscience, de temps en temps, qui permet à l'homme qui ne connaît pas Dieu de faire le bien plutôt que le mal. Mais cette clarté est marquée par une telle couche d'ignorance qu'elle ne peut montrer son efficacité. Donc, en deux mots, elle ne sert strictement à rien. Ces éclairs de prise de conscience par rapport au bien et au mal ne permet pas à l'homme de la rue, le monsieur tout le monde, de connaître Dieu. Les êtres humains donc déforment, étouffent et nient la révélation naturelle de Dieu. Donc de là la nécessité de les confronter à la parole de Dieu pour qu'ils soient éclairés. J'aimerais que nous, c'était un résumé dimanche passé, ça, au cas où vous n'auriez pas remarqué, si jamais. J'aimerais que nous réfléchissions maintenant sur le rapport que nous entretenons chacun avec la vérité. Ou pour le dire autrement, qu'est-ce qui nous empêche d'entendre la vérité et dès lors de la vivre et d'en vivre ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement authentiques, honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres? Pour répondre à cette question, j'aimerais prendre un texte se trouvant dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 7. On va rester en fait dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean. Il y aura deux lectures, plus ou moins longues, mais on ne peut pas y couper, c'est important. Après ça, Jésus continua de parcourir la Galilée, donc c'est le nord d'Israël. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tentes était proche. Je précise que c'est la fête des tabernacles, c'est un autre nom. On commémorait à ce moment-là, pendant une semaine, le séjour d'Israël dans le désert et le fait que Dieu avait pris soin de son peuple dans le désert. Parce que dans le désert, rien à manger, rien à boire. Ils ont passé 40 ans dans le désert sous leur tente et Dieu a pris soin d'eux. Donc, une fois par an, les Juifs commémoraient cela en quittant leur maison et en plantant leur tente avec leurs voisins pendant une semaine à l'extérieur de chez eux. Ses frères, dont les frères de Jésus, lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que des disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. » Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Okay. Deuxième passage, un peu plus loin, quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir ?» Donc, il parlait de Jésus. Hein. Le voici qui parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus enseignait dans le temps, lui s'écria alors, « Vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, il parle de Dieu, bien entendu, car je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui et ils disaient « Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci ?» Les pharisiens entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyaient des gardes pour l'arrêter. Alors dans ce passage, à deux moments différents, nous sommes en présence de deux groupes principaux de personnes qui sont confrontées à Jésus et à son message. Premier texte d'un côté, ses frères, Jacques, l'auteur de l'épître du même nom dans le Nouveau Testament, qui deviendra un des pasteurs de l'église de Jérusalem, Joseph, Simon et Jude, qui lui aussi écrira une épître du Nouveau Testament. Et de l'autre, deuxième groupe, les chefs religieux, les responsables religieux. Deux groupes, deux attitudes différentes vis-à-vis de Jésus. Les pharisiens et les enseignants de la loi de Moïse, visiblement hostiles, et les frères de Jésus, visiblement enthousiastes, qui poussent leurs frères à se rendre à Jérusalem pour la fête des tentes et à y perpétrer encore quelques miracles supplémentaires. Deux attitudes donc très différentes. L'une qui manifeste de l'incrédulité, les chefs religieux, et l'autre qui manifeste quoi en fait ? Quand on prend les frères de Jésus, si on connaît un peu leur trajectoire spirituelle au travers de l'évangile, il y a un mieux ici. Quand je lis ça en première lecture, je me dis, ah, ils ont quand même évolué les frères. Hein. On part quand même d'un stade, et je vous cite l'évangile de Marc, où lorsque les frères et la maman de Jésus, Marie, apprennent, que le fiston est en train de faire des miracles et de guérir et d'enseigner que le royaume des dieux est proche, etc. Je cite Marc. Lorsqu'il apprit, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car il disait, il a perdu la raison. Lorsque la famille apprend que le fiston Jésus guérit des malades et enseigne que le royaume de Dieu est proche, ils le prennent pour un fou. Ils veulent le récupérer avant qu'il ait dit et fait trop de bêtises. Ils veulent en quelque sorte le colloquer, quoi. Hop, Jésus dans un HP. Il y a donc, à première vue, une sacrée évolution dans le chef des frères, me semble-t-il. Et on est fou de joie pour Jésus. Ses frères croient en lui. Il le pousse même à manifester sa messianité auprès du peuple à Jérusalem lors d'une des plus grandes fêtes juives. Que c'est beau, on est content pour Jésus. Hein. En fait, il faut pas. Parce qu'on déchante assez vite lorsque, je vais le relire, lorsqu'on lit dans le texte ce que Jésus dit. Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester. Tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Jésus parle du rapport que ses frères entretiennent avec le monde. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, que le monde dans la pensée biblique signifie un système de pensée et d'action qui est opposé à la pensée de Dieu. C'est fonctionner sans Dieu et sans rapport à sa loi, à sa vérité morale. Et donc, ennemi de Dieu, celui qui suit les mouvements du monde. Et apparemment, c'est le cas des frères de Jésus. En apparence, il y a un truc qui a bougé, mais au fond d'eux, ils sont toujours dans les ténèbres. Le diagnostic est terrible, mais nécessaire. Les hommes s'illusionnent sur leur compte et sur leur situation. C'est d'ailleurs ce que font les frères de Jésus. Ils se pensent dans une certaine position, mais en fait, Jésus leur dit qu'ils sont encore du monde. Ils sont habités par la pensée du monde. Car s'ils faisaient partie du royaume, Jésus leur dit, le monde les détesterait comme il le déteste. Parce que le monde est dans les ténèbres et que Jésus est la lumière qui vient dans le monde. Jésus dira ailleurs à son Père en priant pour ses disciples, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde tout comme moi je ne suis pas du monde. Les vrais disciples de Jésus connaissent des soucis à vivre dans ce monde. Ils souffrent de ce qui s'y passe et comme ils y rendent témoignage à la vérité, à l'évangile, ils rencontrent de l'opposition tout comme leur maître. C'est ce que Jésus dit. Si vous êtes avec moi, si vous faites partie du royaume, si vous êtes mes disciples, vous aurez des problèmes dans ce monde, parce que ce monde n'accepte pas, ne reçoit pas ma parole. Donc si nous ne rencontrons jamais d'opposition dans notre vie, c'est parce que notre témoignage est insipide, incolore, inodore, inexistant. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus. Vous n'avez pas d'emmerdement parce que vous êtes chrétien, il y a un souci. Vive les emmerdements. Donc, si les frères de Jésus sont encore du monde, ils ne sont donc pas du royaume de Dieu. S'ils appartiennent au monde, ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Ils ne sont pas de la vérité n'est pas en eux. Jean le dira d'ailleurs clairement, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Pourtant, il y a les apparences. Moi, quand j'ai lu le texte pour la première fois, c'est la première fois que ça me saute aux yeux avec autant de clarté, c'est le cas de le dire. En apparence, les frères de Jésus croient en lui. Ils le poussent à aller faire des miracles à Jérusalem. C'est quand même une preuve de confiance. À première étude, tu dis, ils croient, puisqu'ils disent à Jésus d'aller faire des miracles supplémentaires. semble qu'ils sont dans une spirale positive. En fait, la vérité, c'est qu'aucun des deux groupes que Jean met ici en parallèle, aucun des deux groupes ne croit, même si leur attitude est totalement opposée. Donc la question que je me pose et que je vous suggère de vous poser avec moi aujourd'hui est donc de savoir si au-delà des apparences, ces deux incrédulités, ces deux manques ou absences de foi, ces deux refus de la vérité révélée par Jésus ont la même racine. Les apparences sont différentes. Il y a une franche opposition d'un côté et plutôt une participation positive de l'autre. Mais Jésus dit « les deux groupes ne croient pas en moi ». C'est important de comprendre la racine de ces deux phénomènes parce que nous souffrons peut-être du même problème. On va être thérapeutique aujourd'hui. On va essayer. Si on devait essayer de prendre un groupe social déterminé, je dirais que certains ne croient clairement pas en Jésus. D'autres sont en chemin ou ennemis de toute idée que le Christ puisse être la vérité. Et ce groupe-là est représenté par les pharisiens dans notre texte, tandis que d'autres peuvent se réjouir d'une certaine manière de cette vérité. Ils peuvent se réjouir de ce que Jésus est venu dans le monde, mais n'y prendre en fait aucune part. Ils semblent faire partie des proches de Jésus, mais ils n'en font pas partie du tout. Et ce groupe est symbolisé dans ce récit par les frères de Jésus. Jean nous dit donc, et ça c'est important de le comprendre, il nous dit donc ensemble que l'on peut émettre des signaux différents quant à la vérité, quant à l'évangile, une forme d'enthousiasme comme les frères de Jésus ou une franche opposition comme les pharisiens, et être dans le même camp. Celui du monde, celui d'opposant à la vérité, d'opposant à Dieu. Donc pour tenter de répondre à la question « ces deux incrédulités ont-elles la même racine ?», je vous invite à réexaminer plus précisément les versets 3 et 4 de notre passage que j'ai pris tout à l'heure. Et ça, on va essayer de discerner dans cette interaction entre Jésus et ses frères quel est le fond de leur problème. Parce que la raison, la racine de leur problème est dans cette partie-là du texte. Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. Va te montrer. » La réponse de Jésus, je vous le rappelle, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. » Et dans verset 10, un peu plus loin, « Lorsque ses frères furent montés à la fête, ils sont donc partis sans Jésus, Jésus y monta lui aussi, non pas en se montrant, mais comme en secret. » Il y va en secret, sans se montrer. Donc on peut déjà dire qu'il y a ici une opposition entre venir dans la lumière et venir en secret. C'est pas du tout la même chose. Les frères de Jésus poussent celui-ci à se révéler en pleine lumière et lui désirent rester en retrait, car dit-il, mon temps n'est pas encore venu. Alors il y a beaucoup de choses à dire ces deux versets. J'ai donc tenté de ne rien oublier. Parce que, encore une fois, la compréhension que nous aurons de l'origine de l'incrédulité des frères de Jésus est importante pour nous aussi. Je me suis, comme souvent, demandé par quel bout j'allais aborder la chose, et comme souvent, j'ai décidé de me poser la question, d'après moi, exégétiquement, la question importante de ce texte. Quelle lumière les frères de Jésus lui suggèrent-ils de rechercher? C'est ça la question, parce qu'on parle de lumière, de se faire connaître. Eh bien, la lumière que l'on reçoit du monde. Lorsque l'on cherche à être connu, ils poussent leurs frères à la notoriété. Les frères de Jésus lui suggèrent donc de se rendre à Jérusalem, d'en mettre plein la vue à tout le monde, dans le but d'en récolter quoi ? La gloire, pardi. Celle de Dieu ? Ah ben non, celle que donne le monde. La gloire personnelle. Gloire qui, dans ce cas, rejaillira sur eux, sur les frères de Jésus. Ils cherchent la lumière pour Jésus et l'ombre de cette lumière pour eux-mêmes. Sa gloire va rejaillir sur nous. C'est, si vous avez un peu de mémoire, c'est déjà une des tentations du diable dans le désert. Quand il amène Jésus sur un sommet montagneux, il dit « Regarde tous les royaumes de la terre, si tu m'adores, tout ça c'est à toi. » La gloire. Cette attitude de cœur des frères de Jésus montre effectivement qu'ils sont encore dans les ténèbres et qu'ils n'ont strictement rien compris à la vérité qu'est venue révéler leur frère. Jésus n'a jamais voulu de la gloire que peuvent donner les hommes, car c'est la gloire de Dieu qu'il est venu annoncer. Jésus ne fait rien pour et par lui-même, mais il fait tout pour son Père et par son Père. C'est une bien terrible et pâle lumière, quand on réfléchit, que nos quatre compères recherchent. En effet, faire partie du royaume de Dieu, c'est tout faire pour que le roi de ce royaume soit connu et glorifié. C'est ne plus rien faire pour soi ou par soi-même, mais pour Dieu et par sa puissance d'amour. Je pense donc qu'ils se sont trompés de royaume, ceux qui pensent qu'on peut obtenir une gloire personnelle en servant Dieu. C'est un piège dans lequel des chrétiens, des pasteurs, souvent des pasteurs, bien entendu, vu la position qu'ils ont, c'est un piège dans lequel un pasteur peut très vite et très facilement tomber, surtout s'il est très doué. Je laisse un temps pour que ça descende. Ils se sont donc trompés de royaume, ceux qui pensent qu'on peut obtenir ce type de gloire personnelle en servant Dieu. Ceux-là font encore partie du royaume du monde, du royaume des ténèbres. Alors, il y a quelque chose de pathétique et de terrible, moi je trouve, enfin, ça c'est mon opinion personnelle, dans ce texte. Nos quatre frères recherchent la lumière du royaume des ténèbres, alors que le roi du royaume de Dieu est leur demi-frère. Ils sont de la même famille, terrestre, j'entends. Ils n'ont pas le même papa, vous aurez compris. Ils ont le même maman, mais pas le même papa. Nul n'est prophète en son pays, ni dans sa famille, apparemment. Ils sont encore aveugles à la lumière du royaume de Dieu. Alors Jésus va effectivement faire allusion dans notre texte à sa gloire. Il va y faire allusion. Il va dire que le moment n'est pas encore venu pour lui d'entrer triomphalement dans Jérusalem et d'y révéler sa gloire. C'est important ça. Parce qu'en réfléchissant là-dessus, on va se rendre compte ce qu'est la gloire et comment on l'obtient quand on est un disciple de Dieu. Ça va peut-être un peu faire peur, mais je suis désolé, c'est le texte. Cette entrée tant désirée par les frères de Jésus, on te fait des miracles, elle va arriver cette entrée, quelque temps plus tard. Lorsqu'il sera acclamé par la foule versatile et assassine, au cri de « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, youpi, le voilà, you, c'est merveilleux ». La même foule, une semaine après, crucifie-le. La foule, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas refaire ça. Mais là encore, Jésus va témoigner de son humilité. C'est le roi de gloire qui rentre dans sa ville. Jérusalem est la ville du Dieu très haut. Il faut garder ça à l'esprit. Et comment est-ce qu'il manifeste sa gloire en rentrant dans sa ville, assis sur un ânon, sur le petit d'un âne? Aucun roi ne parade dans sa ville sur un âne, mes amis. Au minimum, c'est un cheval, et le plus beau en plus. Pas ce roi-là. Il y a un autre texte qui est en Jean 17, quand Jésus prie avant d'être arrêté pour ses disciples. Il dit à son Père, « Maintenant, Père, révèle-toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Rends-moi cette gloire-là. » Les termes par lesquels Jésus désigne cette gloire qu'il redemande à son Père, en fait, renferment une révélation sur sa personne, sur sa préexistence, le fait qu'il est Dieu, en fait, sur l'état divin où il va retourner après sa résurrection et après l'ascension. Il dit à son Père, « Rends-moi cette gloire-là. » Cette gloire, il l'avait. Il la possédait auprès de Dieu avant que le monde soit. Il participait complètement aux perfections divines et la beauté du ciel. Et l'apôtre Paul va d'ailleurs caractériser cet état de gloire de Jésus en disant qu'il était en forme de Dieu. Et notre évangéliste nous le révèle également dès les premiers mots de son évangile. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Cette gloire qu'il possédait, Jésus s'en est dépouillé par son incarnation. Il a laissé cette gloire au ciel en prenant la forme d'un serviteur. Et maintenant, il demande à Dieu de la lui rendre. Mais comment est-ce que cette gloire va lui être rendue? Par la croix. C'est par le chemin de croix que le Christ retrouve le chemin de sa gloire originelle. Et il couvre celle-ci tous ceux qui croient en lui et qui le suivent. Ça, c'est le chemin. Vous voulez connaître la gloire de Dieu? C'est ça le chemin. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui s'inscrivent, à mon avis. Alors, qu'est-ce que la gloire recherchée par les hommes et auprès des hommes pourrait bien avoir de commun avec celle manifestée par Jésus et portant le sceau du royaume? En fait, ces deux gloires n'ont rien à voir. C'est bien pour cela que Jean, dit des frères de Jésus, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Le problème des frères de Jésus, c'est qu'ils recherchaient leur gloire à eux au travers de celle potentielle de leurs frères. Alors vous allez me dire, oui, mais les docteurs, ça c'est pour les frères, ils ont bien compris, hein, ok, c'est leur gloire. Et les docteurs, les enseignants de la loi, même chose, hein, la racine du problème est la même. Ils ne recherchaient ni ne puisaient leur gloire personnelle du ministère de Jésus, c'est en avait d'accord, sûrement pas. Non, ils attiraient de la loi de Moïse. Nous sommes les interprètes, de la loi de Dieu. Nous tirons notre gloriole, notre gloire personnelle du fait que nous interprétons la loi de Dieu. C'est nous qui savons. Gloire nous soit rendue. Le mal est le même. La racine du problème des deux groupes est identique. La racine de ce mal qui ronge les frères et les pharisiens et qui les ferme à la vérité, parce que c'est ça le drame, hein, ça les ferme à la vérité, hein, c'est bien la gloire personnelle. Et celui qui ne vit que pour lui-même, n'a que lui-même comme but et son bonheur personnel, ne peut pas ne vivre que pour Dieu. Il ne peut pas faire ça. Parce que vivre pour Dieu, et uniquement pour lui, ça c'est la loi du royaume. Et ne vivre que pour les autres, ça c'est l'accomplissement de la loi du royaume. Alors vous allez me dire, c'est très gentil tout ce que tu nous dis, hein, on a bien compris, mais qu'est-ce que nous, là-dedans? Ben, mes amis, moi j'en ai pris plein les dents, hein, à titre personnel, mais alors qu'une fois c'est personnel. Je pense qu'il faut oser se poser la question, me semble-t-il. Est-ce que je recherche la gloire de Dieu dans tout ce que je fais? Par exemple, même dans ce que je fais pour l'Église, ça me concerne en priorité sans doute. Hein. Qui est au centre de mes préoccupations? Qui me prend ou qu'est-ce qui me prend le plus de temps? Moi et mon royaume ou le royaume de Dieu? On est dans un des deux royaumes, mes amis, hein, au quotidien, tous les jours. C'est une décision qu'il faut prendre tous les matins quand on se lève. Comme les frères de Jésus, nous pouvons parfois nous réjouir d'une sorte de joie liée à Jésus parce que nous sommes de son bord. Mais quelle est cette joie qui ne porte strictement aucun fruit? Est-ce qu'elle peut vraiment venir du royaume de Dieu, cette joie-là? Parce que ne pas comprendre que notre volonté et notre libre arbitre sont constamment attaqués par notre tendance naturelle à ne penser qu'à nous, est la raison pour laquelle le royaume de Dieu n'a pas encore été établi définitivement sur cette terre. C'est Pierre qui dit ça. Hâtez le retour du Seigneur. 2 Pierre 3:2. Hâtez le retour du Seigneur. Il dit ça aux chrétiens. Bougez-vous pour que le jour du Seigneur arrive. Ça fait 2000 ans. Et quelle est la cause de ça? Ben, que les chrétiens vivent encore pour eux-mêmes. Voilà. Si le royaume de Dieu n'a pas d'importance, bon, on n'a pas son retour. Hein. Combien de chrétiens pensent encore au retour de Jésus, en fait? Parce que moi, il y a quand même des textes qui parlent de ça, qui me foutent les jetons, hein, moi. Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Veillez, veillez que je ne vous surprenne pas en train de dormir. Alors, c'est spirituel, hein, c'est symbolique. Donc ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui y croient, donc qui sont passés par la nouvelle naissance, comme l'a défini Jésus, souffrent de la même maladie. Pour les premiers, ça peut les empêcher ou retarder leur rencontre avec Dieu. Pour les seconds, cela les empêche de vivre une vie digne de leur appel, digne de leur Seigneur. Mais le problème est le même. Parce que la conception qu'a l'homme du bonheur impliquera toujours que c'est à lui de le construire. Alors si cet homme est chrétien, cela changera malheureusement la plupart du temps pas grand-chose. Si ce n'est qu'en cas d'échec, quand il ne parviendra pas à faire son bonheur, il le reprochera à Dieu. C'est la différence. Un non-croyant, quand il est malheureux, il ne peut pas en vouloir à Dieu. Il n'y croit pas. Quand un chrétien ne tombe pas comme il veut, quand il ne parvient pas à construire son bonheur selon ses propres perspectives, quand ça ne fonctionne pas, il en veut à Dieu. Donc la vaine gloire, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, la gloire qui met l'homme au centre de tout, est, mes amis, la plus vieille ruse du monde. Rappelez-vous, vous serez comme des dieux. C'est ce que le diable dit à l'homme dans le récit de la création. Vous serez comme des dieux. Et le diable a dit juste, hein, mes amis, nous sommes devenus nos propres dieux. Les dieux de nos vies étriquées, recherchant notre gloire, notre bonheur, l'amour, et ne trouvant en fait, même si on ne s'en rend pas compte, que l'abrutissement, l'illusion, le vide, la solitude et la mort. Parce que les chrétiens ont aussi peur de la mort, ce qui est profondément normal. J'aimerais terminer, ici, par un verset de l'épître de Paul aux Éphésiens, et qui est, je pense, c'est une prière que fait Paul, et je pense que nous devons prier cette prière les uns pour les autres, je crois, par rapport à ce que j'ai dit ce matin. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si la grâce est toujours première, j'ai dit ça souvent et je le crois profondément, la grâce est toujours première. On ne dit rien à qui que ce soit, mais à rien du tout, même de ce qui le détruit, sans avoir préalablement accueilli, prouver son amour à cette personne. Il n'y a que l'amour qui peut nous permettre de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc si elle est toujours première, la grâce, dans la pratique et la pensée de Jésus, elle s'accompagne toujours de vérité aussi. Parce que Jésus, il a compris une chose, enfin, plus qu'une chose, une façon de parler. Il sait qu'il n'y a pas de changement sans apport de lumière, sans que l'obscurité qui couvre notre capacité de prise de conscience ne soit dissipée. Et cette lumière, on l'a dit, c'est le Christ. Dans les évangiles, Jésus dit toujours à son interlocuteur ce qui ne va pas dans sa vie. Toujours. Il le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, beaucoup de ménagement souvent, mais il le dit. Il y a de nombreux exemples dans l'évangile. Il ne fait jamais l'économie de la vérité. Et ce quelque chose qui, à la base, ne va pas dans la vie des hommes et dans notre vie, c'est soit l'absence totale de Dieu, soit une vie au rabais avec un Dieu placé dans un placard. Car Jésus sait que la grâce, sans la vérité, débouche sur la complaisance et l'aveuglement. Tandis que la vérité sans la grâce, c'est un peu le cas des pharisiens, conduit au jugement et à la mort de l'autre. Donc seul l'amour, comme je le disais, donne un droit de regard sur la vie de l'autre, et que si l'on n'est pas dans l'amour, on apportera le jugement, mais certainement pas la lumière. Mais, et ça j'aimerais que vous reteniez ça, pour votre vie, pour ma vie, pour notre vie d'église, mais dire tout de la grâce à quelqu'un qu'on aime, et jamais rien de la vérité, c'est en quelque sorte pousser quelqu'un du 10e étage en lui disant qu'on l'aime. Qui entendra quoi que ce soit de la vérité révélée si nous n'ouvrons pas la bouche, mes amis? Le trésor que l'on possède, et on ne le partage pas. J'aimerais quand même terminer sur une note d'optimisme, parce que j'ai plombé l'ambiance. On va prendre le dernier texte, si vous voulez, c'est un verset, dans le livre des Actes. Ça se passe un peu avant la Pentecôte, donc après la résurrection, vous aurez compris. Et l'ascension, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ils ont fini par croire. C'est pas beau? C'est une bonne nouvelle, hein? C'était des andouilles et ils sont devenus intelligents. Ils ont ouvert la porte à Dieu, c'est génial. Vous voyez que je termine par une note d'optimisme. En tout cas, il faut réfléchir. Honnêtement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Alors, je ne suis pas un prophète, je ne vais pas laisser pousser ma berbe. Mais moi, quand je vois le truc tourner ici, comme ça évolue, mes amis, ça me dit que les chrétiens, ça fait 2000 ans qu'ils attendent que Jésus revienne. Et toutes les générations de chrétiens, depuis que l'Église existe, pensaient que Jésus allait revenir de leur vivant. C'est assez normal, puisqu'ils attendent que ça, normalement, le retour de leur Seigneur. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près. Je sais pas vous, mais moi quand j'y pense, hein, je suis pas meilleur que vous, hein, je vous ai remarqué, je pense. Jésus va me reprocher des trucs. Forcément, il va me dire des trucs que j'ai pas envie d'entendre. Mais il y a un truc que j'ai pas envie d'entendre. Hein. Moi, titre personnel. C'est l'entendre dire, j'ai tout fait pour toi et tu n'as rien fait pour moi. Tu dois vivre pour moi et tu as vécu pour toi-même. Ça, on peut le faire même en étant un pasteur. Hein, en prêchant tous les dimanches. Hein, c'est tout à fait possible de faire ça. Hein, et de ne pas vivre pour Dieu hein, quand même. Hein. Donc je ne suis pas meilleur que qui que ce soit d'autre. Hein. Mais donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai aucune envie que Jésus me sorte ça. Quoi. Il va me sortir plein de trucs qui auront déconné dans ma vie. Hein. Mais j'ai vraiment pas envie qu'il me sorte ça. Même si après, ça sera la félicité, ça sera le banquet de nos œufs l'agneau. Youpi, on va bouffer, ouais, hop là, ça va être génial. Hein. On va se réjouir, mais juste avant, chronologiquement, si je comprends les termes, juste avant, c'est évaluation. Bulletin. Moi, je veux des bonnes notes à mon bulletin. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sera la première fois de ma vie. Et qu'il bénisse sa parole. Amen.